Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, frisson garanti dès le début de ce journal.
Hein. Un enregistrement radio du débarquement de 44 a été retrouvé par hasard. Un reporter américain témoigne sous la mitraille. Le document vient d'être confié à un musée. Dans l'actualité également, Donald Trump qui replonge en campagne et régale ses fans à sa façon, vous l'entendrez. Une interrogation après l'attentat de la préfecture de police. La task force voulue par Emmanuel Macron pour mieux lutter contre le terrorisme a-t-elle servi à quelque chose? Ce sera la question du 8h. Et puis attention au froid, ce soir pour les Bleus, l'équipe de France de foot affronte l'Islande à Reykjavik. Match éliminatoire comptant pour l'Euro 2020. Il faudra être bien réveillé, nous dira Bichente Lizarazu.
La météo, Marina Giraudeau.
Ce sera une journée ensoleillée, un peu de passion. Si vous êtes au nord de la Loire, c'est encore nuageux ce matin, mais ça va se dégager. Deux bémols sur les côtes de l'Occitanie, où ça restera nuageux. Et puis aussi vers les côtes de la Manche, jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. Nuages, petites averses et vent partout ailleurs. On ira vers le mieux, avec des températures en hausse. Entre 18 et 19 degrés sous les nuages, mais 20 à 29 pour les autres régions, 29 dans le sud-ouest.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
C'est donc un enregistrement d'une puissance incomparable qu'on va vous faire écouter. Les bandes prenaient la poussière dans la cave d'une maison américaine. Son propriétaire vient de les céder à un musée, le mémorial du D-Day en Virginie. On y entend le témoignage direct d'un reporter radio embarqué sur un navire américain au large des côtes normandes le 6 juin 44. Le cuirassé des alliés est en train d'essuyer les tirs de l'aviation allemande. George X raconte tout ce qu'il voit en temps réel, à la fois témoin et acteur, Jean-Alphonse Richard.
Oui, on connaissait effectivement les images du photographe Robert Capa. Il existe désormais cette voix qui dormait dans une cave, celle du correspondant radio George X. Plus de 70 ans après, le revoilà à bord de l'USS Anacon, sous la mitraille d'un avion allemand qui fonce sur les Américains. Dans ce déluge de métal, la voix s'arrête, souvent figée par la terreur, puis reprend quand George X voit l'avion touché par les soldats. Ils en ont eu un. Son petit magnétophone capte aussitôt des cris de joie. La voix authentique du D-Day a été offerte à un musée. Elle vaut toutes les images du débarquement, ce paysage de fumée et de flammes, comme le décrivait George X.
Voilà, Jean-Alphonse Richard, l'enregistrement total dure 13 minutes et la maison où ont été retrouvées ces bandes n'est autre que celle de l'ancien vice-président de Richard Graff, le fabricant du fameux magnétophone qui a servi à enregistrer ce reportage. Il les avait donc gardés comme un trésor.
Et vous nous l'avez dit, on pourra l'écouter au mémorial du D-Day en Virginie.
RTL Matin, 8h03.
75 ans après, à la tête des États-Unis, c'est le président qui tente d'empêcher son propre débarquement. Donald Trump, sous le coup d'une procédure de destitution, multiplie les sorties outrancières. Il était cette nuit en meeting à Minneapolis et tous les coups sont permis. Dans son viseur, les Biden, père et fils, Joe, l'ancien vice-président et candidat à la primaire démocrate, et Hunter, son fils, visé par une enquête en Ukraine. Hunter, invisible depuis que Donald Trump s'intéresse à lui, le président américain a décidé d'en faire un slogan de campagne sur le modèle de « Où est Charlie ?». Écoutez et éloignez les oreilles sensibles du poste, c'est bien le président des États-Unis d'Amérique qui parle.
Where's Hunter?
Where's... Où est Hunter? Il est où? Hunter, qui est pas très intelligent. Hunter, tu ne sais rien sur rien. Hunter, tu es un loser. Et ton père n'a jamais été vu comme quelqu'un d'intelligent. Il a seulement été un bon vice-président parce qu'il avait compris comment lécher le cul de Barack Obama.
Voilà, Donald Trump, cette nuit au micro de Philippe Corbet, ça a été, me disait Philippe tout à l'heure, le passage le plus applaudi de ce meeting. Trump qui a demandé à sa diplomatie d'organiser un cessez-le-feu entre la Turquie et les Kurdes. Ankara, vous le savez, a lancé son opération terrestre il y a deux jours au nord de la Syrie après l'annonce du retrait de l'armée américaine. Un premier soldat turc a été tué ce matin. Les Kurdes qui avaient aidé à chasser Daesh de Syrie se sentent aujourd'hui abandonnés, trahis, comme ceux qui vivent en France, à Strasbourg. Yannick Collant les a rencontrés.
Hélène Erin suit heure par heure l'offensive turque dans le nord de la Syrie où se trouve une partie de sa famille. Cette militante kurde réfugiée en France a été très déçue du manque de soutien des Américains et des Européens. Elle a l'impression qu'ils ont tout oublié.
Je ne comprends pas. Quand il y a eu des attaques Daesh sur la région à Kobané, pendant 3 mois et demi, dans toute l'Europe, on était dans la rue. ensemble. Ma déception, c'est ça.
Les combattants kurdes étaient en première ligne face à Daesh et pour elle, aujourd'hui, de simples condamnations diplomatiques de la Turquie ne suffisent absolument pas.
11 000 combattants kurdes, jeunes, ont perdu la vie dans cette guerre pour que nous, les Européens, parce que je me considère aussi comme une Européenne, pour que nous, on puisse vivre dans la paix, tranquillement, dans notre confort. C'est lâcheté que je ne comprends pas. C'est une trahison.
Et de mettre en garde les Européens, une guerre entre l'armée turque et les combattants kurdes créerait les conditions idéales pour faire renaître Daesh dans le nord de la Syrie.
Un reportage signé Yannick Collant.
RTL, il est 8h05.
Plus d'une semaine après l'attaque de la préfecture de police de Paris, les enquêteurs veulent toujours savoir si l'assaillant avait des complices.
C'est sans doute le point principal à élucider aujourd'hui. Les investigations continuent. Et concernant la clé USB qui contenait des données sensibles, il semble qu'elles aient été simplement liées à sa fonction d'informaticien au sein de la direction du renseignement.
Alors les autorités ont reconnu ces derniers jours des failles, des dysfonctionnements dans cette affaire. Mais au fait, la fameuse task force mise en place par Emmanuel Macron au début de son quinquennat pour mieux lutter contre le terrorisme, à quoi a-t-elle servi? Eh bien c'est la question du week-end.
Avec vous Olivier Bois, bonjour.
Bonjour.
Cette instance devait servir à mieux remonter les informations au président. Elle a échoué?
Non, de ce point de vue-là, la lettre de mission est parfaitement tenue. 439 notes rédigées en 2018, le président de la République est alimenté au quotidien. Cette task force coordination nationale du renseignement qui est installée à la présidence de la République est dirigée par un haut fonctionnaire, Pierre de Bousquet de Florian, ancien patron de la DST, dont la légitimité n'est pas discutée. Il est en contact direct avec tous les patrons opérationnels du renseignement qu'il réunit tous les 15 jours. Et c'était d'ailleurs l'autre mission de cette coordination, faire en sorte que l'information circule là où par le passé des concurrences malsaines entre les différents services posaient problème.
Après l'attentat qu'on vient de vivre, quel va être son rôle à cette task force?
Eh bien, elle va avoir un rôle important. On a vécu un attentat très particulier perpétré par un agent radicalisé qui travaillait au sein même d'un service de renseignement qui était habilité secret défense. C'est sans précédent, c'est vécu comme un drame évidemment parce qu'il y a des victimes, mais c'est aussi vécu aujourd'hui comme une humiliation pour les services français. Revoir les procédures de signalement des comportements jugés à risque, renforcer les contrôles pour les habilitations secret défense, la task force bras armé d'Emmanuel Macron va être au cœur dans les mois qui viennent d'un resserrage de boulons à tous les étages du renseignement français.
La question de 8h avec Olivier Bois ce matin. Dans un instant, on part à Rouen et on va évoquer notamment la situation de l'indemnisation de nos agriculteurs.
RTL Matin, 8h07. Et voilà.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
À Rouen, après l'incendie de Lubrizol, les premières indemnisations pour les agriculteurs doivent être versées d'ici une dizaine de jours.
Ils sont toujours 450 à ne pas pouvoir vendre leur production en raison du risque de pollution. L'État a trouvé un accord avec l'entreprise chimique. Par ailleurs, un comité pour la transparence et le dialogue sera installé aujourd'hui par les trois ministres qui feront spécialement le déplacement, celui de l'agriculture, Didier Guillaume, et celle de la santé et de la transition écologique, Agnès Buzyn et Elisabeth Borne. La transparence, c'est ce que réclame justement ce couple de septuagénaires, les époux Amour, ça ne s'invente pas, qui habitent tout près de Lubrizol. Frédéric Veil.
Leur maison est située à 300 mètres de l'usine, une maison centenaire qui était là avant, Lubrizol. Alors aujourd'hui, à l'occasion de l'installation de ce comité, les époux Amour le disent clairement, ils souhaitent désormais la plus grande transparence.
On entend un qui dit c'est vert, l'autre c'est rouge, l'autre c'est jaune.
On est juste à côté.
Moi j'attends une qui nous assure qu'il n'y a pas de danger, deux, qu'on n'aura pas de suite, comme on appelle l'effet secondaire.
Nos maisons, ils ne vont même pas se vendre. C'est de pire en pire maintenant. Qui c'est qui va les acheter? Voilà, on vit mal.
Ce couple de septuagénaires n'a pas été convié à la réunion ce matin en préfecture, mais ils espèrent que leur parole sera entendue.
Frédéric Veil. EDF change de tête à Flamanville. Un nouveau directeur de projet est nommé. Une décision qui intervient alors que la facture du chantier de l'EPR vient encore de s'alourdir d'1,5 milliard d'euros. Près de 12,5 milliards désormais. C'est trois fois plus que prévu. Le réacteur nouvelle génération accumule les retards. Il n'a plus rien à perdre. Thierry Bolloré, le numéro 2 de Renault, aujourd'hui sur la sellette, dénonce dans les Échos un coup de force inquiétant de la part du président Jean-Dominique Senard. Ce dernier veut tourner définitivement la page Carlos Ghosn qui avait nommé Thierry Bolloré. Le conseil d'administration de Renault se réunit tout à l'heure pour lui trouver normalement un successeur.
RTL 8h11.
En football, les choses sérieuses commencent pour les Bleus.
Avec le premier des deux matchs décisifs dans la course à la qualification pour l'Euro 2020, les champions du monde affrontent l'Islande ce soir à Reykjavik. Coup d'envoi à 20h45 dans un stade ouvert aux quatre vents et où on attend des températures proches de zéro. L'Islande, une atmosphère particulière qu'a expérimenté notre consultant Bichente Lizarazu.
Un souvenir, oui, enfin, formidable. Pas forcément sur le plan du résultat, mais c'était quelques mois après notre victoire en 98 en Islande. Une Marseillaise un peu particulière, un pianiste habillé de blanc et un joli piano blanc sur la fameuse piste d'athlétisme commençait quelques notes de cette Marseillaise. Et nous, ça nous a un peu perturbé, on avait pas trop l'habitude d'une version piano. Et s'est ajouté tout d'un coup la voix d'un ténor qui est monté très très haut. Et là, ça a regardé à gauche, ça a regardé à droite et on est tous partis dans un fou rire parce que cette Marseillaise était totalement décalée par rapport aux Marseillaises qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors, je sais pas si la Marseillaise sera de ce type-là, je pense que pas forcément. Ce qui est certain par contre, c'est que les conditions de jeu ici, on a énormément de vent, il fait très froid, il fait 3 degrés. Et je pense qu'avec le vent ressenti, ça peut être même du négatif. Et puis un adversaire qui est difficile à jouer chez lui surtout, qui a un jeu très physique, qui te rentre dedans. Donc c'est un match où il faut être réveillé assez vite. L'équipe de France va devoir monter des qualités de combat parce que c'est là-dessus les Islandais. Puis c'est une équipe qui a des automatismes et qui est capable de poser problème à cette équipe de France, même si c'est l'équipe de France champion du monde.
Bichente Lizarazu avec Philippe Sanfourche. Islande-France à 20h45 à vivre en intégralité dans Club Lisa de 20h à 23h ce soir sur RTL.
Ça ne serait pas un problème de santé.
Non, absolument. Et on vous a retrouvé cette Marseillaise islandaise de 98 qui avait beaucoup fait rire les Bleus à l'époque. Alors, il faut voir les têtes de Zidane, de Barthez et de Lizarazu tous en train de se bidonner. Vicente, qui n'a toujours pas retrouvé son sérieux après le match lors d'une interview, il est incapable de répondre aux questions. Ce caquettement là, c'est Vicente Lizarazu, ça dure comme ça plusieurs minutes.
Il sera meilleur ce soir pour son club Lisa, je vous rassure. Vraiment, les Islandais, faut se les faire. Il fait très froid, on a bien compris tout cela. C'était le journal de Jérôme Florin. Et puis, puisque nous parlions football, je voulais vous donner rendez-vous demain samedi à partir de 18h30, puisque la rédaction et les voix d'RTL vont rendre hommage à Eugène Saccomanno. On refait le match spécial Saccomanno autour de Christian Olivier, Pascal Praud, Dominique Grimaud et Dominique Sévrac. 1h30 entièrement dédiée à notre Eugène. Rendez-vous donc demain samedi entre 18h30 et 20h.
5, 4, 3, 2, 1.
RTL.
On refait le match.
Comment ?
On refait le match sur RTL.
Ouais.
Eugène Saccomanno.
Allez.